Studio Tamani, voici nos informations en français.
Le ministre des Affaires étrangères suisse fait du maintien en vie de Béatrice Tötli sa priorité et demande sa libération sans condition. Pour certains analystes, cette déclaration des autorités suisses est politique. Selon eux, toute tentative de coup de force mettrait en danger la vie de Béatrice. Lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Les pays du G5 conjuguent leurs efforts. Cette redynamisation des actions communes a été décidée samedi lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Deuxième tour de l'élection législative partielle dans Songo. Hier, comme au premier tour dans la commune de Tessit, des témoins ont constaté des irrégularités. Une information démentie par l'un des présidents du bureau de vote de la localité. Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à la présentation Mariam Maïga. Le gouvernement suisse affirme s'être engagé dans un combat pour essayer de maintenir en vie Béatrice Tötli, qui a été prise en otage pour la deuxième fois le 7 janvier dernier à Tombouctou. Le ministre des Affaires étrangères a demandé à nouveau sa libération sans condition. Compte rendu, Mohamed Touré.
Le ministre des Affaires étrangères Didier Burkhalter a indiqué que son pays était dans un combat pour essayer de la maintenir en vie. Et toujours selon lui, ça ne va malheureusement pas être simple. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que la libération de Béatrice Tötli après son premier enlèvement en 2012 avait pu être rapide en quelques jours parce qu'il y avait une demande claire des ravisseurs qu'elle ne revienne pas au Mali. La Suissesse déjà retenue en otage en 2012, lorsque Tombouctou était aux mains des groupes djihadistes, avait décidé malgré tout d'y retourner après sa libération obtenue au bout d'une dizaine de jours. Béatrice Tötli est apparue dans une vidéo. Dans cette vidéo, un porte-parole d'ACMI qui a revendiqué la prise d'otage rappelle qu'à l'époque de son premier enlèvement, l'une des conditions de sa libération était qu'elle ne revienne dans aucun pays musulman prêcher le christianisme. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que les autorités suisses avaient tenté de la dissuader de retourner au Mali en vain. Il a enfin demandé sa libération sans condition. Notre politique est claire, a-t-il également indiqué. Il n'y a pas de paiement. Verser une rançon revient à préparer les enlèvements du futur, a-t-il ajouté.
Pour Serge Daniel, la déclaration des autorités suisses sur leur volonté de libérer Béatrice Tötli sans condition est un propos politique. Pour lui, si les ravisseurs demandent une rançon, la Suisse n'aura pas d'autre moyen que de la payer, car toute tentative de coup de force mettra la vie de Béatrice en danger. Serge Daniel est journaliste, écrivain, spécialiste des questions sécuritaires. Il est joint au téléphone par Ayoub Assou.
La Suisse est la première à savoir qu'on ne peut pas libérer Béatrice Tötli sans condition. Mais évidemment, au vu de son opinion publique, c'est tout à fait normal que de s'exprimer comme ça. Je sais qu'il y a une piste d'intermédiaire déjà où que la Suisse, via des personnes, a demandé à avoir des nouvelles fraîches de sa ressortissante. Tous les pays dont les ressortissants ont été enlevés ont payé une rançon, sauf la Grande-Bretagne. Vous n'avez aucun pays qui ne reconnaît avoir payé des rançons. À la limite, on n'utilisait plus le mot rançon et on parlait plutôt de compensation parce qu'ils ont détenu l'otage, ils l'ont nourri, etc. Ils vont demander probablement deux choses. En tout cas, là, c'est la marque de fabrique de Al-Qaïda au Maghreb islamique, demander la libération de djihadistes emprisonnés au Mali ou dans d'autres pays du Sahel, et ensuite la demande de rançon.
Et réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook et le compte Twitter du studio Tamani. Tamani. Les pays du G5 veulent apporter leurs efforts sur la manière d'organiser une riposte à la menace terroriste. Cette redynamisation des actions communes a été décidée samedi lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le ministre tchadien des Affaires étrangères dont le pays assure désormais la présidence de l'UA est au micro de nos confrères de RFI.
Nous avons, dans un souci de mutualiser nos moyens, mis en place le G5 Sahel. Les cinq pays allant de la Mauritanie au Tchad, en passant par le Mali, le Burkina et le Niger. Je crois qu'on constate qu'il y a des groupes terroristes qui sont dans la région, qui sont également au nord du Mali et qui alimentent l'insécurité et qui maintenant dépassent les frontières du Mali et qui vont plus en profondeur. On a vu Ouaga qui est atteint. Le président de la République du Tchad, en sa qualité de président du G5, s'est rendu lui-même à Ouaga. Hier, il y a eu une concertation entre les cinq pays membres du G5 sur les voies et moyens de mutualiser nos efforts, notamment dans le cadre de la défense et de la sécurité, pour pouvoir ensemble essayer de faire face à toutes ces menaces. C'est vrai, nous sommes des pays très vaste, nos moyens sont limités, mais je crois qu'en les mettant ensemble et en appelant la communauté internationale notamment à tout faire pour contenir les désordres en Libye, je crois que l'un dans l'autre, on puisse faire en sorte que ces virus-là ne s'enfoncent davantage en Afrique.
Des dispositions à court et moyen terme pour renforcer la sécurité dans la région de Mopti viennent d'être prises. Le colonel Salif Traoré, ministre de la Sécurité, l'a annoncé ce week-end lors de sa visite de terrain à Mopti. Selon le ministre, ces mesures vont permettre de doter les forces armées maliennes en pinasse afin de renforcer les moyens de sécurité fluviale. Colonel Salif Traoré, ministre de la Sécurité, au micro de notre correspondant à Mopti, Moussa Traoré.
Nous sommes conscients que les défis sécuritaires sont très 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 importants ici au niveau de la région de Mopti. Des dispositions sont en cours pour créer des postes de sécurité, de nouveaux postes de sécurité et de nouvelles implantations d'unités pour marquer le terrain. Mais également dans le cadre de rendre les unités plus opérationnelles, des commandes d'équipement et d'armement sont en cours qui vont bientôt arriver et nous allons renforcer le potentiel des unités qui sont ici sur place. Donc voilà des dispositions qui sont en cours, donc des pinasses militaires et il y a d'autres projets de brigades fluviales qui vont arriver ici avec des vedettes. Il s'agissait essentiellement de venir prendre contact, rassurer les troupes, les féliciter pour ce qu'elles font dans cette réorganisation, dans cette restructuration que nous sommes en train de faire. Et ces deux volets vont aller de pair. Et nous allons essayer de les accélérer. Il s'agit de reconnaître le mérite et de les récompenser très très rapidement. En tout cas, plus rapidement que ça ne se faisait dans le passé. Et d'être aussi intransigeant avec les fautes.
Autre titre de l'actualité du jour, deuxième tour de l'élection législative partielle dans Sango. Hier, comme au premier tour dans la commune de Tessit, des irrégularités ont été constatées. Selon des témoins, parmi les 28 bureaux de vote de la localité, il n'y a pas eu de scrutin dans 5 d'entre eux. Toujours selon ces mêmes sources, des pick-up ont également emporté des urnes avant la fermeture des bureaux de vote. Fatih Yattara adjointe au téléphone un habitant de la localité qui témoigne sous couvert d'anonymat.
Les élections de long à l'air. Il y a eu quand même un semblant de vote à Tessit. On a vu des gens qui avaient peur d'aller voter pour un autre candidat, des gens qui étaient intimidés. Il y a déjà 5 bureaux dans lesquels il n'y a pas eu de vote. Dans d'autres bureaux, donc je parle de bureau de Fitili, de Argou et puis de Tidassinen, dans tous ces lieux, à 18h, il n'y a pas eu de votants, mais il y a eu des résultats. Donc ça veut dire qu'il y a eu une mascarade électorale dans la zone. En plus, à Coco 1 et à Coco 2, et une pick-up venait de prendre les deux urnes pour leur dire qu'ils vont se rendre à Tessit. Jusqu'à 18h, les présidents de bureau ne sont pas revenus.
L'un des présidents de bureau de vote de la localité de Tessit a demandé cette information. Selon Mohamed Agnaglas, les élections d'hier se sont déroulées normalement dans la commune. Le comité syndical des services du travail du Mali menace d'aller en grève pendant 72 heures à partir du lundi 8 février 2016. Si les 24 points de ces revendications ne sont pas satisfaits par le gouvernement. Dans le préavis de grève déposé le 19 janvier dernier, le syndicat exige l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs. Sekou Bagayogo est le secrétaire général du comité syndical des services du travail au Mali. Il est joint au téléphone par Hawa Karchoberti.
L'essentiel quand même de ces revendications tourne autour du renforcement des capacités de l'administration centrale du travail, qui est la Direction nationale du travail au Mali. Ensuite aussi des inspections régionales du travail et également de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants au Mali. Ensuite aussi, parmi ces points de revendication, il y a aussi l'amélioration des conditions de travail et de vie des agents qui sont dans ces services-là. Le gouvernement nous a saisi, nous allons commencer les négociations avec le gouvernement le mardi 10 février. Lorsqu'à l'issue des négociations, il y a accord sur les points de revendications, nous allons nous concerter et nous allons voir maintenant si le mot d'ordre peut être levé. Dans le cas contraire, nous allons continuer. C'est les points de revendication contenus dans le préavis qui seront soumis à la négociation.
Docteur Madou Diallo, secrétaire général de l'Assemblée nationale depuis 2012, a démissionné vendredi dernier. Selon certains médias, il aurait été poussé à la sortie à cause de son appartenance à l'opposition. Selon ces mêmes médias, il devrait être remplacé par Modibo Silibé, conseiller diplomatique du président de l'Assemblée nationale. Sport, football, championnat d'Afrique des Nations, CHAN, Rwanda 2016. Pour sa troisième participation, le Mali a atteint pour la première fois le dernier carré de la compétition. Hier, les Aigles du Mali ont battu les Aigles de Carthage par 2-1. Le Mali affrontera la Côte d'Ivoire en demi-finale jeudi prochain.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Écho de nos régions, le focus groupe d'Oxfam a organisé une journée d'enquête vendredi dernier sur les violences basées sur le genre à Bourem. La rencontre a regroupé les leaders religieux, les femmes et les jeunes de la localité. L'objectif de cet atelier est de trouver une solution pour mettre fin aux violences faites aux femmes dans leur foyer, cultiver la cohésion sociale et lutter contre les mariages précoces. Plus de 200 personnes ont participé hier à Koulikoro à une conférence de débat sur l'histoire de Soumangourou Kanté, organisée par l'association Kofaya de Bamako. Cette rencontre a permis d'informer les participants sur la vie du roi Soumangourou, ses œuvres et sa place dans l'histoire du Mali. La rencontre s'est terminée par une visite du site de Nyanankulu. Un conducteur de moto Jakarta est mort suite à un accident de la circulation hier à Kaye. L'accident s'est produit non loin de l'hôpital régional Al-Fousseini Daou. Selon des sources locales, un individu avait mis le feu aux ordures, réduisant la visibilité dans le secteur. Une voiture Toyota a été en stationnement quand le conducteur du Jakarta est arrivé. Il n'a pas pu éviter le véhicule à cause de la fumée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais tout à l'heure, sur le Grand Dialogue, Sirou Fama, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'avons-nous au programme pour ce soir?
Maria Maïga, nous avons décidé de nous intéresser une fois de plus aux violences faites aux femmes au Mali. Un choix qui n'est pas fortuit, car comme vous le savez, très récemment, précisément le 23 janvier dernier, une femme a été abattue froidement par son propre époux, ce qui a donc relancé les débats. Voilà pourquoi nous allons donc tenter de répondre à un certain nombre de questions, notamment quelle est aujourd'hui l'ampleur des violences faites aux femmes, à quoi servent les textes en vigueur pour assurer protection à la gente féminine, quel est le regard que porte la religion sur ce genre de pratiques, d'autres questions. Nous avons donc trois invités. Le premier, disons, la première, c'est Maïmouna Yassine Kounaté de l'association Halte aux violences conjugales. Le second invité, c'est un imam, Mamadou Diallo, il est l'imam de Tourkorobou, il sera en ligne. Et le troisième, c'est Sekou Traoré, il est coordinateur au bureau ONU-Femmes de Gao, expert dans les questions relatives aux violences dans le contexte des crises humanitaires.
À très vite, Sidou Fomba.